Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez chaque jour, vous montrer que la France est riche de talents et que ces hommes et ces femmes vont construire la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur ceux qui défendent le commerce équitable. Ils ont senti le vent du changement se lever et ils sont avec nous aujourd'hui sur Europe 1. Ils sont des spécialistes de l'émaillage en France depuis 1909. Eno est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis vous voulez peut-être être sûr d'acheter ou de vendre au meilleur prix, un comparateur vous aide. La solution aujourd'hui s'appelle Préto. C'est ça la France qui bouge et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, vous connaissez évidemment le numéro à composer pour être avec nous en direct sur Europe 1. Venez nous dire comment vous consommez et si vous faites, Anissa, attention au label qui se situe par exemple sur les produits que vous achetez.
Oui, pour réagir et témoigner, c'est simple, c'est le 3921, le standard d'Europe 1, 50 centimes la minute. Vous pouvez également témoigner et poser des questions aux invités de Raphaël Duchemin sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Le commerce équitable était embryonnaire il y a encore, une quinzaine d'années. Aujourd'hui, des magasins entiers lui sont dédiés, y compris chez nous en France. Et des marques ont compris l'intérêt qu'elles ont de s'y mettre, tout simplement, parce que c'est une attente très forte des consommateurs. Pour accueillir ceux qui ont senti justement ce changement avant l'heure, à mes côtés, il y a, comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Bonjour.
Salut Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, bien sûr, c'est Thomas Hurier qui nous accompagne aujourd'hui, fondateur des Jeans 1083. Bonjour Thomas.
Bonjour Raphaël.
Si je vous dis Biolay, ça vous parle forcément, et bien sachez que le groupement existe depuis 1994. Bonjour Erwan Leroux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes producteur évidemment de lait biologique et administrateur également de Biolay, que vous avez rejoint je crois il y a une dizaine d'années.
C'est ça.
Au départ, c'est l'histoire de 6 producteurs qui décident de se regrouper avec l'ambition tout simplement de développer l'agriculture biologique.
De développer l'agriculture biologique parce qu'ils pensent que c'est une bonne réponse aux enjeux sociétaux, mais aussi de proposer un débouché, une valorisation pour tous les producteurs qui le souhaitent en agriculture biologique, quelles que soient leurs origines, et la possibilité aussi de construire une filière transparente du consommateur, du producteur jusqu'au consommateur.
L'idée, c'est aussi de ne pas être assujetti finalement au bon vouloir, si j'ose dire, des laiteries, de garder une certaine part de contrôle.
L'idée, c'est de reprendre la main sur la commercialisation de notre production principale, qu'est le lait, pour aussi orienter sur la façon de le produire et l'impact que ce système de production peut avoir sur l'environnement, sur l'aménagement économique du territoire, etc.
Nos 6 producteurs, ils sont sur 2 départements hein, au départ.
Au départ, ils sont sur 2 départements, la Loire-Atlantique et le Morbihan.
Ils achètent un camion et ils vont tout simplement aller collecter.
Absolument, ils achètent un camion et au début, ils font tout. Ils prennent leur téléphone, ils appellent des clients potentiels. Et de fil en aiguille, d'autres producteurs de la même région et d'autres régions les rejoignent. Et on est aujourd'hui à peu près 1350 fermes adhérentes à ce groupement.
Et le double de producteurs ?
Et le double de producteurs et de productrices, parce qu'on est à peu près en moyenne 2 personnes à travailler sur chaque ferme. Et on est répartis sur 73 départements de France, donc c'est-à-dire quasiment partout où il y a des vaches laitières.
Vous dites, on est une vraie entreprise sociale et solidaire, on est forcément commerce équitable, puisque la structure ne fait pas de profit, les marges sont rendues aux producteurs.
Exactement, en fait, le groupement Biolay achète du lait, ou le lait des 1350 fermes adhérentes, et le revend à une centaine de clients. Mais la structure économique Biolay ne fait pas de marge. La marge commerciale dégagée par cette activité de vente, de collecte et de vente, est répartie intégralement entre les 1350 fermes adhérentes.
Justement, Elisabeth, c'est peut-être le moment de regarder d'un peu plus près la définition du commerce équitable. Qu'est-ce que c'est précisément ?
Alors, l'origine, c'est la notion de fair trade qui est née aux États-Unis dans les années 60. Puis ensuite, il y a eu une expansion en Europe, chez nous en France. L'idée, c'est quoi ? C'est de vendre et d'acheter, mais ça peut dans le cadre d'un partenariat commercial fondé sur le respect, sur le dialogue, sur la transparence. Et l'objectif, c'est de garantir aux producteurs des produits de vivre dignement de son travail. On paye peut-être un peu plus cher, mais on soutient avant tout les producteurs. On réajuste cet équilibre entre le producteur et celui qui achète. En 2014, la définition légale française, il a fallu attendre 2014, du commerce équitable a été étendue dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire. en relation avec tous les producteurs, y compris les producteurs français.
Oui, c'est pour ça que je disais 1994-2014, vous étiez chez Biolay véritablement des pionniers.
Oui, en fait, les éléments qu'on retrouve dans la loi qui cadre le commerce équitable aujourd'hui ont toujours été les éléments ou la culture qui a fondé notre façon de faire du commerce. C'est-à-dire qu'en tant que producteur, on a toujours voulu faire reconnaître la valeur de notre travail. On a également toujours voulu trouver un terrain d'entente avec nos clients plutôt que de faire du commerce dans une notion de confrontation. Et il y a, au-delà de tout ça, une volonté d'être acteur d'un changement sociétal avec une prise en compte des enjeux, notamment environnementaux et sociaux.
Ça doit vous plaire, Thomas, non ? Je suppose.
Oui, c'est assez remarquable, d'autant que c'est très précurseur. Ça fait 25 ans dans l'économie sociale et solidaire, dans le commerce équitable, même dans le Made in France.
Ouais, c'est un véritable
des
exemple.
Des projets qui ont 25 ans, il n'y en a pas beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce qui a changé en 25 ans, justement, en termes de distribution, de comportement des consommateurs. Et après, j'avais une deuxième question. C'est comment vous vous positionnez par rapport à d'autres acteurs qui se positionnent un peu sur le même registre, mais en complémentarité quand même, comme C'est qui le patron, par exemple ?
Alors, ce qui a changé, je pense que c'est d'abord une question d'échelle. Et la volonté ou le choix des producteurs adhérents à Biolay a toujours été de développer la bio quelque part avant la consommation pour que le lait soit disponible, pour que des clients, transformateurs, distributeurs puissent développer une gamme, le proposer à des consommateurs et que derrière cette consommation, elle alimente à son tour une demande au niveau de la production et donc une conversion de fermes de plus en plus nombreuses chaque jour en bio. Je pense que c'est vraiment le changement principal dans ces 25 années.
Vous évoquiez tout à l'heure les critères à respecter. Alors, ceux que vous respectez aujourd'hui, quels sont-ils précisément, Elisabeth ? Il y en a beaucoup ?
Alors oui, depuis 2001, il y a eu une charte qui a précisé des engagements communs. Justement, c'est permettre à l'acheteur de payer un prix juste au producteur. C'est couvrir... on est vraiment dans le prix juste, avec des conditions de paiement viables, garantir le paiement au producteur de ce qu'il vend, soutenir les organisations, les producteurs, sensibiliser les consommateurs et de leur côté aussi les producteurs se sont organisés pour aussi se protéger et faire en sorte que leurs produits soient vendus de manière équitable dans le respect protégé dans le respect du droit du travail, dans le droit des enfants et évidemment dans le respect de l'environnement.
Ça fait 10 ans que vous êtes avec cette coopérative Biolay. Vous avez je crois une centaine de clients aujourd'hui et le lait est au même prix quel que soit l'endroit en France où il est collecté. Et vous couvrez 73 départements. Ça veut bien dire que ça a pris véritablement de l'ampleur.
Oui, et ça fait partie du choix ou des bases de choix politiques posés par nos 6 précurseurs, qui étaient de s'efforcer de donner la possibilité à tout producteur de France d'avoir une valorisation pour son lait bio et que cette valorisation soit identique. Donc on a tous effectivement la même valorisation. Et ce niveau de prix identique, il est permis par la mutualisation des coûts, qui est une expression de la solidarité entre nous, puisque quand on a choisi d'aller collecter des collègues dans des départements qui étaient très peu denses en termes de production, ces coûts de collecte étaient relativement supérieurs. Ils étaient jugés par d'autres entreprises aberrants d'un point de vue économique. Ça a été possible au sein de Biolay que par la solidarité des producteurs qui ont accepté d'être moins payés pour leur lait.
Et oui, l'union pour que des collègues... fait la force.
Exactement.
On reste ensemble ? On continue à parler commerce équitable aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Rendre à ceux qui travaillent le fruit de leurs efforts, c'est aussi dans l'ADN d'Éthicable, qui a notamment créé Paysans d'ici. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, on s'intéresse au commerce équitable à la française. Peut-être que vous vous dirigez vers ces marques. Dites-le nous au quotidien, comment vous choisissez vos produits. 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Hashtag Europe 1, ça c'est pour vos messages qu'on lit sur Twitter.
Vous avez aujourd'hui, quand vous faites vos courses, tout un tas de labels. Certains vont chercher du tricolore sur les paquets quand ils achètent, d'autres du bio. Eh bien, il y a aussi la possibilité finalement d'avoir les deux. Encore faut-il connaître le bon logo à regarder. Bonjour Christophe Eberhardt.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Éthicable. Alors, ça ne dit pas forcément quelque chose à ceux qui nous écoutent. Et pourtant, vous êtes spécialisé dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Et vous avez par exemple créé la marque Paysans d'ici du bio. Origine France, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Éthicable est une entreprise coopérative, une SCOP. Et nous sommes maintenant, nous existons depuis 2003, donc ça fait un peu plus de 15 ans.
Oui, ça fait un bail aussi. Hein.
Nous développons des produits de commerce équitable et que nous les distribuons dans les rayons bio des supermarchés principalement.
Alors, on l'a dit, l'aventure commence en 2003, mais avant, vous, vous avez beaucoup, beaucoup bourlingué. C'est aussi ça qui vous a mis sur la piste du commerce équitable.
Oui, c'est vrai que personnellement, je viens du monde des ONG. Je suis agronome et je viens du monde des ONG. J'ai travaillé avec des paysans en Afrique, en Amérique latine, en Haïti pendant plusieurs années. Et puis, j'ai connu le commerce équitable en amont, quoi, avec des organisations de producteurs avec lesquelles j'ai travaillé. Et au début des années 2000, lorsque je suis rentré en France, comme un certain nombre d'agronomes qui ont consacré leur carrière à travailler avec des ONG et des petits paysans, avec deux amis, l'un spécialisé dans la commercialisation de produits en grande distribution, l'autre plutôt un homme d'entreprise et de filière, nous avons décidé de créer cette entreprise coopérative dédiée au commerce équitable.
Pour justement payer au juste prix les producteurs et les aider ?
Oui, pour développer le commerce équitable, permettre à des coopératives de petits producteurs des pays du Sud d'obtenir plus de revenus, de vivre mieux de leur travail et aussi d'accompagner, de renforcer des coopératives de producteurs. Parce que dans le commerce équitable, il y a cette notion d'organisation de producteurs qu'on cherche à renforcer.
Donc au départ, c'est pour aider les autres pays. Puis vous vous dites finalement, ce qu'on fait pour d'autres, on pourrait peut-être le faire ici chez nous en France.
Voilà, c'est ça. Étiquable, c'est comme j'imagine certains auditeurs le savent, du café, du thé, du chocolat, surtout.
On les a avec
chocolat.
Nous. Hein, si vous ne connaissez pas les produits, ils sont là avec nous dans le studio d'Europe 1 sur Europe 1.fr.
Notre travail, ça a été effectivement le chocolat, le cacao, Haïti, Pérou, Équateur. Voilà, c'est ça notre travail au départ. Des petits producteurs de café, de cacao qui ont 1 à 2, 3 hectares de cacao ou de café. Et dès le début, en fait, les consommateurs nous disaient « Mais pourquoi pas les paysans d'ici ? Et pourquoi pas le commerce équitable avec des producteurs français ?» Et nous-mêmes, on a réfléchi, on a avancé dans notre réflexion parce qu'on était très branchés plutôt au pays du Sud. Et effectivement, à un moment donné, à partir de 2010, on s'est dit « Travaillons, essayons d'adapter les règles du commerce équitable qui existent dans les labels, etc. À l'agriculture française, parce que ça supposait un travail d'adaptation. On a établi une charte pour définir des critères, parce qu'on ne pouvait pas les transposer tels que, mais finalement, en y réfléchissant bien, on est sur des contextes assez similaires, comparables.
Et ça a été dur de s'imposer, parce qu'il y avait quand même peu de monde qui faisait ce genre de choses à l'époque, quand vous démarrez.
Oui,
c'était balbutiant, c'était pas encore une mode ou un phénomène de société.
En effet, c'était encore. C'est vrai que aujourd'hui, on sent qu'il y a une vraie demande. On est porté par des consommateurs qui ont envie de consommer local. On était en 2010 aussi au début de ce phénomène local, c'est-à-dire qu'on sentait bien que les gens avaient envie de consommer peut-être davantage bio, d'avoir davantage de sens dans leur consommation, savoir d'où venaient les produits. Et c'est vrai que c'était un peu le début dans cette époque-là.
Elisabeth. On peut le dire, c'est un marché qui est en pleine croissance nous en France.
C'est simple, en 2018, tous les experts le disent, on a affaire à une année exceptionnelle pour le commerce équitable. Surtout qu'on est dans un contexte où la consommation est un petit peu stagnante, mais la consommation responsable, là, prend son envol. Les gens, finalement, on achète, c'est pas qu'on achète plus, mais on achète beaucoup plus responsable. Les produits labellisés commerce équitable ont connu un bond de 22% en France l'année dernière. Et les filières Made in France ont même connu un bond de 34%.
Justement, le Made in France, il est véritablement au cœur des ventes ?
Oui, avec le commerce équitable, on rémunère mieux les producteurs grâce aux produits fabriqués en France. Ces produits, c'est quoi ? Ça peut être des fraises, des œufs, des pâtes. Et avec le commerce équitable, tout ne revient pas directement aux distributeurs. Les producteurs, les meuniers, les boulangers peuvent enfin se garantir des prix stables grâce à des distributeurs, on les connaît, à des biocoop, à des c'est qui le patron, ou grâce aussi à nos invités qui sont ici présents.
Évidemment. Que dit notre coach ?
Le commerce équitable, vous l'expliquez, c'est historiquement assez nord-sud pour aider les gens à être mieux rémunérés, bénéficier de mutuelles, etc. Ça, on croit qu'on l'a en France. Pour autant, vous créez un commerce équitable nord-nord. Et du coup, je me demandais, qu'est-ce qui n'est pas équitable ? Qu'est-ce qui est non équitable dans les pratiques que subissent aujourd'hui les agriculteurs pour qu'il soit nécessaire de faire du commerce équitable entre nous ?
D'abord, je crois que les chiffres montrent que les revenus des agriculteurs sont particulièrement bas. Il y a eu des chiffres éloquents dernièrement. On disait qu'un tiers des agriculteurs avaient des revenus de...
En dessous des 1 000 euros.
En dessous des 1 000 euros. Donc, effectivement, on est sur un besoin de revaloriser ces produits locaux. On a l'impression comme ça qu'il y a beaucoup de produits qui sont produits en France, mais finalement, nous, aujourd'hui, nos produits paysans d'ici concernent des huiles de tournesol, des crèmes de châtaigne, des confitures, des herbes de Provence. Vous voyez, les herbes de Provence, par exemple, on imagine qu'elles sont souvent françaises. En réalité, ce sont souvent des produits d'importation. Et ce genre de production qualitative qui suppose du travail, qui suppose du savoir-faire, il y a un vrai besoin de relocaliser et de recréer ces activités-là en France et d'offrir des débouchés stables et rémunérateurs à des organisations de producteurs.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans votre démarche, il y a la volonté de faire sortir finalement ce concept de commerce équitable des magasins spécialisés. Vous dites, il faut le mettre partout, il faut que ça soit visible, y compris dans la grande distribution.
Oui, la démarche d'Étiquable, c'est effectivement cette capacité que nous avons à avoir mis des produits de commerce équitable avec la marque Étiquable d'abord en rayon, dans le rayon bio des supermarchés, aujourd'hui avec la marque Paysan d'ici, effectivement de la rendre disponible, de pouvoir permettre tout un chacun de consommer des produits bio, équitables, tracés, dont on sait d'où ils viennent, sachant que derrière chaque produit, il y a un projet, il y a un groupe d'agriculteurs et qu'on puisse lire sur l'emballage, comprendre quel est le projet de ces agriculteurs.
10 produits au départ, combien aujourd'hui?
Nous en avons une quarantaine.
Oui. Et donc, combien de salariés?
Nous sommes 105 salariés aujourd'hui.
Avec la plupart des sociétaires, parce que vous êtes toujours
avec
une SCOPE.
Avec des sociétaires, puisque nous sommes une SCOPE, et que donc la société Étiquable n'appartient pas à des investisseurs, mais à ses salariés. Ce sont les salariés qui sont les propres patrons de leur entreprise. Et c'est vraiment un outil qui est destiné à être au bénéfice du commerce équitable avec des coopératives de petits producteurs en France ou dans les pays du Sud.
62 coopératives. On reste ensemble, on continue à parler commerce équitable aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et pourquoi ne pas avoir un label Commerce France équitable? C'est ce sur quoi travaille Agri-Éthique. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Alors Raphaël, vous nous faites découvrir avec vos invités aujourd'hui le commerce équitable à la française. Si vous avez des questions, et il y en a déjà, n'hésitez pas à aller les poster sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Les invités de Raphaël y répondront dans un instant. Et puis vous pouvez également nous appeler 3921, c'est le standard.
Parfois, la démarche de toute une filière peut évoluer et devenir un véritable label à part entière. C'est ce qui s'est passé avec Agri-Éthique. Bonjour Ludovic Brindejon.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur et directeur de ce label de commerce équitable 100% français. Alors racontez-nous comment est né le projet.
Mais en fait, on est tombé un peu dans le commerce équitable par hasard. C'est-à-dire que dès 2012-2013, on a vu les conséquences d'un contexte agricole très difficile pour les producteurs. Et s'ajoute à ça une volatilité des prix des céréales. C'est-à-dire que le prix du blé ne cesse d'évoluer à la hausse, à la baisse, et c'est très compliqué pour les producteurs.
Oui, parce qu'au départ, vous êtes au sein de la CAVAC, qui est une coopérative de Vendée, c'est
tout
ça
à fait, tout
et,
à fait.
Et vous regardez justement toutes les influences que peuvent avoir les cours sur le quotidien des agriculteurs.
Exactement, ça a un impact extrêmement néfaste sur le quotidien du producteur. Il ne peut pas être en permanence derrière son écran à regarder comment va
la volatilité
des prix. Et finalement, ce n'est pas notre métier non plus. Notre métier, c'est de produire du blé, c'est de faire de la farine pour les meuniers et de fabriquer du pain pour les boulangers. Quoi.
Donc ça veut dire qu'au départ, vous travaillez sur le blé.
Exactement, on démarre sur la filière blé-farine-pain. Et la première étape a été de mettre tout le monde autour de la table pour mettre en place des contrats à 3 ans en se basant sur un coût de production plus une marge pour que l'agriculteur puisse vivre correctement de son métier.
Pour que ce soit véritablement rémunérateur. Ça a été difficile, compliqué de mettre tout le monde justement autour de la table et d'arriver à quelque chose de commun?
Alors, en local, ça a été assez naturel finalement parce que les agriculteurs comme les meuniers, on se connaissait déjà, on était déjà dans des démarches qu'on appelle filières. Et tout le monde était favorable à discuter et à trouver une solution pour se déconnecter des marchés.
Que dit notre coach de cette démarche qui va évoluer, puisque maintenant c'est au-delà de la filière, on est sur un véritable label?
Oui, alors les labels, c'est un vrai sujet, c'est complexe parce qu'au travers d'un label, on essaye d'exprimer la valeur, la sincérité, l'authenticité d'une démarche. Et il y a plein de manières d'être authentique et sincère dans une démarche de fabrication d'un produit quel qu'il soit, en bio, en local, il y a plein de sujets tellement c'est compliqué. Du coup, en tant que consommateur, on se retrouve avec plein de petits autocollants ou sur des produits alimentaires. Mais nous, dans le textile, on le retrouve aussi. Entre le label Origine France Garantie, EPV, etc. Chaque label a sa valeur ajoutée et a du sens. Mais on rêve quand même aussi du jour où tout ça sera harmonisé et où on aidera le consommateur à se référer à un seul étendard. Ouais. Dans le bio, une des forces du bio, c'est que le AB, il est aujourd'hui incontournable et il fait foi pour tout le monde. Est-ce qu'un jour, on va réussir dans le commerce équitable à avoir ce niveau d'impact-là avec un seul étendard?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà, il faut jouer la logique de complémentarité pour l'instant. C'est-à-dire que sur des produits bio et équitables, il faut qu'on ait les deux labels. Le label bio et le label de certification équitable comme AgriÉthique. Ensuite, l'évolution des labels ou du label de commerce équitable. En effet, demain, il faut déjà qu'on obtienne une reconnaissance publique. Ça serait déjà une première étape. Et ensuite, en effet, pourquoi pas un label uniforme, homogène, qui permet aux consommateurs de s'y retrouver plus facilement. Mais ça n'a pas que des effets néfastes non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une multiplicité des labels, mais le consommateur en a besoin et s'y réfère. Je pense qu'il en a conscience, en tout cas.
C'est vrai, mais en même temps, vous avez des autolabels qui poussent. Dans cette forêt de labels sincères, vous avez des labels insincères. Et Madame Michu, elle n'est pas capable. Et moi-même, Tom Uria, je ne suis pas capable de faire le tri.
Oui, parce que là, par exemple, sur la boulangère, et vous êtes venu avec la boulangère, on a à la fois le certifié AB, agriculture biologique, et puis juste à côté, on a le B équitable et local, avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge. Ça veut dire que c'est fabriqué en France et que c'est bio.
Alors, déjà, vous avez le label bio, donc ça
on
prouve
a deux labels,
la certification. Et ensuite, vous avez le drapeau bleu-blanc-rouge pour dire en effet qu'on est sur une origine France. Mais le label AgriÉthique est 100%
celui-là,
origine France.
Celui-là, il est sur le pain que vous nous avez amené. Hein.
Il est sur la brioche aussi. Ouais. Il est sur la brioche aussi.
Elisabeth,
peut-on être label commerce équitable et pas bio?
Exactement. Alors, c'est vrai que la particularité d'AgriÉthique, c'est qu'on a démarré en 2013, on n'était pas forcément sur une filière biologique. Pour diverses raisons, c'est vrai que...
Parce que ça répond à un autre cahier des charges encore, le label bio.
Tout à fait, le label bio, on est sur un cahier des charges produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intérêt de pouvoir ouvrir notre label AgriÉthique à des producteurs non bio, c'est justement de leur permettre de vivre de leur métier et d'envisager une transition vers des productions plus vertueuses et notamment vers le bio. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas tout de suite avoir 100% de nos producteurs en bio. Il faut qu'on les accompagne d'un point de vue économique et ensuite qu'on les amène vers des productions plus vertueuses.
On reste ensemble et on continue à parler commerce équitable aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h27. Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous au 39-21, bien sûr, vous décrochez votre téléphone et aussi sur Twitter, hashtag Europe 1, c'est la France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui, la France bouge dans le domaine du commerce équitable. Le commerce équitable à la française, ça existe, ils sont là, ils sont autour de la table, ce sont vos invités Raphaël Duchemin et ils répondent aussi à toutes vos questions, n'hésitez pas. La France bouge, c'est votre émission, hashtag Europe 1 pour vos messages sur Twitter, 39-21 pour le standard.
Erwan Leroux est avec nous, paysan producteur de lait biologique et administrateur de Biolay. Christophe Eberhardt également, cofondateur d'Ethicable, entreprise coopérative spécialisée dans la vente de produits bio qui a lancé notamment le label Paysan d'ici. Et puis Ludovic Brindejean, fondateur et directeur d'AgriÉthique, label de commerce équitable 100% français. Notre coach Thomas Uriès, fondateur d'Edging 1083 et bien sûr Elisabeth Assayag. On a déjà une question, je crois, Anissa.
Oui, alors c'est une question de Marc qui a tweeté avec le hashtag Europe 1. Il dit...
Un très fidèle.
Et il s'adresse à tous les trois. En tant qu'acteur du commerce équitable, comment gérez-vous la problématique du changement climatique?
Ah, bonne question. Qui veut répondre? Ludovic Bindejean.
Moi, je veux bien avancer sur cette question. Aujourd'hui, le label AgriÉthique, on s'obstine à aller sur des démarches de territoire. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas que des agriculteurs de l'ouest de la France, à y livrer du blé chez un moulin de l'est de la France. Donc à chaque fois, on est sur des schémas locaux avec des agriculteurs qui fonctionnent avec des meuniers et des boulangers en local. Donc là, déjà, une optimisation, je dirais, des transports.
Elisabeth, on a parlé évidemment des entreprises respectives qui sont avec nous ici dans le studio d'Europe 1, mais je crois que vous en avez trouvé d'autres.
Oui, heureusement,
il y en a 100% commerce équitable en France.
Vous avez donc Alter Eco, hein, qui est le pionnier en quelque sorte du commerce équitable en grande surface. Il a été créé il y a un peu plus de 20 ans, en 1998. Alter Eco est spécialisé dans l'importation, dans la commercialisation, dans toutes les enseignes de la grande distribution, des produits alimentaires 100% Alors eux, ils sont biologiques, commerce équitable et labellisés par Max Havelaar ou Fair for Life. La démarche d'Alter Eco, c'est de travailler prioritairement avec des producteurs les plus défavorisés, notamment dans les pays en développement, et à les accompagner dans leur développement à travers une approche solidaire et durable. Vous avez aussi les jardins de Gaïa. Les jardins de Gaïa, ce sont des tisanes et des thés créés en 1994. Et eux, ils sont en Alsace, ils dénichent des petits producteurs. Les récoltes sont manuelles. Ils sont environ 70 à travailler pour les jardins de Gaïa, 70 personnes. Moins connu du grand public, Solidar Monde, qui commercialise plus de 1500 produits en provenance, là aussi, des pays du Sud. C'est également pour améliorer la condition de vie des producteurs. C'est surtout ça, hein, par rapport au bio. On est dans la rémunération des producteurs, leurs conditions de vie, etc. Ou encore, en région Pays de la Loire, vous avez l'association Bio Loire Océan, qui aussi ont réagi très tôt. Dès 1997, les producteurs là-bas se sont réunis sous forme associative pour développer, structurer toute la filière fruits et légumes bio et de trouver un meilleur équilibre entre l'offre et la demande et garantir un meilleur suivi des prix.
On se rend compte qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Ce n'était pas forcément le cas il y a 15-20 ans, hein, je le disais. Christophe Eberhardt, vous avez senti véritablement les choses changer, cette prise de conscience? Elle a un effet direct sur la manière dont vos produits sont accueillis aujourd'hui?
Oui, je crois que la demande du consommateur, véritablement, est là. Elle a augmenté. On connaît tous des croissances importantes. Les gens que vous venez de citer sont tous nos confrères au cours de ces 15 dernières années, hein, qui ont développé le commerce équitable en France. Nous, chez Ticab, nous avons une croissance de plus de 25% l'année dernière, par exemple. Mm-hmm. Donc, les consommateurs sont disposés à consommer des produits équitables, bio. Et ça fait partie d'une démarche globale, je crois. Je crois que les gens s'y retrouvent dans la démarche, adhèrent à une démarche, mais aussi se retrouvent dans la qualité des produits, dans le type de produits. C'est-à-dire que le commerce équitable est parvenu quand même à imposer aussi un style de produit. Dans le chocolat, par exemple,
pour prendre un exemple sud, c'est 45% de vos ventes, c'est ça?
C'est 45% de nos ventes, c'est des produits de terroir, issus d'origine. Le chocolat est un produit industriel, généralement on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Le commerce équitable a permis de faire découvrir le goût d'un chocolat d'Équateur, du Pérou, d'Haïti, et de pouvoir faire découvrir les spécificités du goût du terroir, puisque un peu comme les vins, le cacao a des terroirs spécifiques. Et...
Thomas?
Oui, je trouve que c'est très important ce que vous dites sur la notion de qualité et de plaisir. Quand on est tous consommateurs, on n'est pas que des êtres rationnels qui achetons parce que c'est beau, parce que c'est bien pour la planète ou pour nous. Il suffit de voir tous ces paquets de cigarettes sur lesquels c'est écrit « fumez-tu » pour voir que ça n'a pas d'effet puisque les gens fument toujours. Donc du coup, on n'est pas rationnel et je trouve que la part de plaisir, de qualité est très importante dans nos discours pour promouvoir le Made in France, le bio, le commerce équitable, parce que c'est ce qui va faire la différence. Et c'est ce qui va toucher nous tous, être irrationnels que nous sommes.
Erwan Leroux, vous aussi, vous sentez justement cette fameuse prise de conscience dont on a parlé, ce changement de mentalité, c'est quelque chose qui se traduit clairement dans vos ventes également pour Biolay?
Oui, et en fait, cette prise de conscience, elle se traduit pour nous par une reconnaissance de la part de nos clients qui sont sensibilisés à cette notion de commerce équitable et qui nous demandent de plus en plus nombreux de le certifier, de le faire vérifier et donc de le faire certifier par un label.
La suite, c'est quoi pour vous trois, justement? Développer encore, vous unir davantage, peut-être simplifier les choses pour que ce ne soit pas pour le consommateur une sorte de forêt, comme disait Thomas tout à l'heure. C'est déjà fait pour vous, hein, pour Biolay. Est-ce que c'est duplicable, finalement, votre exemple à vous? Ou est-ce que parce que vous êtes sur un monoproduit, c'est plus simple?
Je pense que c'est avant tout une histoire de maturité culturelle. C'est-à-dire que si on fait le parallèle avec la bio, par exemple, la bio existe depuis plus longtemps que la notion, en tout cas encadrée, de commerce équitable. Mais il lui a fallu un certain temps pour se traduire par des cahiers des charges, que ces cahiers des charges soient harmonisés au niveau européen et arrivent à un étendard commun. Et je pense que les années à venir connaîtront aussi cette phase de maturité pour le commerce équitable et on continuera d'avancer sur des référentiels, sur une harmonisation de ce référentiel et de ces labels.
Ludovic et Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? s'unir, simplifier.
L'enjeu demain, c'est que le commerce équitable devienne un peu une généralité et que, au-delà de l'idée de prix rémunérateur pour les producteurs, que ce soit un cas particulier et puis que ce soit vraiment quelque chose qui aille vers des modes de production plus écologiques, une agroécologie et que les, parce que ça, le commerce équitable, c'est pas seulement une rémunération meilleure du producteur, c'est aussi d'aller vers des systèmes de production agricoles.
Ça soit une évidence finalement.
Voilà, qui soit plus respectueux de la nature et qui soit plus vertueux.
Ludovic.
Alors, moi, j'ai plusieurs rêves, finalement, par rapport au devenir du commerce équitable. Déjà, que ça soit le modèle économique de demain. Le modèle actuel, on le voit bien, c'est un rapport de force perpétuelle entre les différents acteurs. Et c'est pas vivable, c'est beaucoup de stress. Et finalement, pour pas grand-chose quand on fait le compte à la fin. Et moi, l'autre schéma que j'envisage, c'est on ne distingue plus il ne faut plus distinguer d'ailleurs le commerce équitable nord-sud et nord-nord, finalement. Et pourquoi pas demain avoir un pain au chocolat avec du blé labellisé agri-éthique et puis un cacao qui vient de Côte d'Ivoire en commerce équitable.
Oui, l'essentiel, c'est qu'effectivement, le producteur soit correctement rémunéré. Merci à tous d'être venus nous parler commerce équitable aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Vous restez avec nous, elle est spécialiste de l'émaillage français depuis 1909. Eno est l'entreprise qui va bien, merci. A tout de suite.
Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités et avec l'entreprise qui va bien aujourd'hui.
Et cette entreprise, c'est Eno. Bonjour Antoine Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le propriétaire de cette entreprise qui a désormais le label EPV et qui existe depuis 1909 parce que c'est un des grands spécialistes, que dis-je, le spécialiste en France de l'émaillage, on peut le dire comme ça?
Oui, on peut le dire comme ça. On a un savoir-faire très ancien qui s'est pérennisé, qui a traversé toutes les époques de l'entreprise et qui aujourd'hui connaît un succès particulier parce qu'on l'utilise notamment pour émailler les plaques de nos planchas. Et c'est un matériau qui a beaucoup d'intérêt pour cuisiner, pour l'entretien facile, beaucoup d'avantages.
On va revenir au tout début de l'aventure avec la famille Eno. Ça ne s'écrit pas E-N-O comme la marque, mais H-A-I-N-E-A-U-X. On est dans la Meuse, c'est ça, quand tout démarre?
Revin, les Ardennes, au bord de la Meuse, effectivement. Une entreprise qui a d'abord été de fonderie, une émaillerie, et puis qui s'est, pendant la Première Guerre mondiale, qui s'est délocalisée en fait dans les Deux-Sèvres, qui était un peu la région d'accueil des Ardennais, et puis qui a trouvé certainement qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans les Deux-Sèvres et qui est resté jusqu'à maintenant.
Et c'est vrai que cette famille, elle a senti les choses très vite, parce qu'elle a vu que les premières gazinières, les premières bouteilles de gaz arrivaient, elle a commencé à construire gazinières. Du coup, l'entreprise, finalement, s'est développée assez vite.
Oui, d'abord, il y a une première caractéristique importante, c'est que c'est resté pratiquement tout le temps une entreprise familiale. Donc, ils ont à la fois su conserver une vision familiale et pérenniser tous les savoir-faire. Traverser toutes les époques, parce que dans la vie d'une entreprise, il y a des temps forts, il y a beaucoup aussi des temps faibles. Et ils ont également eu pas mal de visions, notamment en termes de produits, comme vous le dites, après la Seconde Guerre mondiale, le gaz. Là, c'était vraiment le moment où l'entreprise a connu son essor le plus remarquable.
600 salariés, c'est ça?
C'est ça, oui. Il y avait pratiquement 600 salariés dans les années 80.
Et puis après l'âge d'or, il y a eu des problèmes, vous le disiez. Le groupe est vendu, ça se passe plutôt mal.
C'est-à-dire que la taille de l'entreprise ne permettait plus à une famille de pouvoir supporter tous les investissements et les besoins en fonds propres qu'il y avait. C'est pour ça qu'elle a cédé à un groupe suédois avec lequel elle entretenait de bonnes relations. C'était une entreprise qui aurait pu permettre à Eno de connaître une deuxième vie beaucoup plus importante. Mais malheureusement, je crois que la vision stratégique de l'entreprise a disparu à ce moment-là.
Ouais, ça va conduire au dépôt de bilan. On
Absolument.
Est dans les années 90. Et là, c'est repris par un entrepreneur qui, finalement, renoue un petit peu avec ce qui fait l'ADN d'Eno.
Un petit peu, oui. C'est ça. Il a eu conscience qu'il fallait repartir sur des fondamentaux de l'entreprise qui se situaient autour des métiers de la cuisson et du chauffage d'appoint. Et notamment, il a commencé à développer une diversification de niches dans le métier du nautisme. C'est comme ça que nous sommes devenus...
Donc dans la miniaturisation On peut dire ça.
Pas la miniaturisation, mais plutôt des appareils de cuisson plus compacts et surtout très robustes, parce que à l'intérieur d'un bateau, il faut des choses qui tiennent le temps. Quand on traverse l'océan Atlantique, il faut pouvoir se nourrir quand le bateau gîte. Quand on est à l'autre bout du monde, il faut que ça fonctionne toujours. Donc il y a une exigence dans la robustesse du produit qui n'est pas exactement ce qu'on peut retrouver dans l'électroménager standard.
Vous arrivez en 2003.
2003,
ça va mieux.
Alors on est deux.
Et puis oui, et ça c'est important parce que c'est toujours comme ça que ça a marché finalement, quand ça marchait chez Hainaut.
Oui, je crois que les plus belles histoires, les plus belles périodes de l'entreprise ont été effectivement dans des périodes où il y avait un binôme, parce qu'on fait un métier assez complexe finalement. Il y a l'industrialisation, c'est un métier en soi, et puis il y a aussi toute une partie d'édition de produits. Il faut concevoir les produits, il faut les inventer, il faut les vendre. Et ça a toujours nécessité, en tous les cas, c'est lorsqu'il y avait un binôme que l'entreprise a mieux fonctionné.
Thomas ?
On parlait des labels beaucoup tout à l'heure dans la première partie consacrée au commerce équitable. Je trouvais que c'était important d'expliquer les labels que vous avez par rapport à votre savoir-faire remarquable, un peu l'émaillage.
Entreprise du patrimoine vivant.
C'est le label EPV, Entreprise du patrimoine vivant. Et puis par rapport aussi au Made in France, d'où vient le produit. Ça, ce n'est pas EPV qui dit ça, mais c'est le label Origine France Garantie. Donc je trouve que c'est important de marteler un peu les labels qui permettent à nos entreprises de témoigner de la sincérité de leur démarche et de leur engagement pour produire localement et aussi pour préserver des savoir-faire comme l'émaillage. Combien il y a d'entreprises en France qui, comme vous, maîtrisent ce savoir-faire-là ?
L'émaillage, on est moins de 10, ça c'est une certitude. Assez peu finalement, notamment l'émaillage alimentaire, qui est très particulier puisqu'on mange sur les plaques.
L'émaillage, c'est le verre sur le métal.
C'est le verre sur le métal, tout à fait. C'est un savoir-faire très ancien. Les Étrusques émaillaient déjà la céramique. Donc c'est quelque chose d'ancien, mais qui a été complètement remis au goût du jour, notamment parce qu'on a passé énormément de temps, je pense à mon associé qui a mis au point une technique d'émaillage assez révolutionnaire, qui va permettre à l'entreprise à la fois de le pérenniser et de nous projeter aussi dans une dimension plus internationale.
Et Thomas a raison de le signaler, vous avez relocalisé aussi en France, dans les deux régions de cœur finalement d'Hainaut, les Ardennes et puis les Deux-Sèvres.
C'est-à-dire que ça nous a paru un peu comme une évidence, parce que quand on a repris l'entreprise en 2003, on a eu quelques années, on va dire, relativement normales. Et puis est arrivée la crise des années 2007-2008. Et à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Soit on maintient cette usine en France et on arrive à vendre notre valeur ajoutée, le fait même d'exister en tant qu'industriel sur un territoire qui n'est pas forcément adapté à faire tourner des usines, il faut qu'on se le dise, c'est une réalité. Et on s'est dit, il y a une seule chose à faire, c'est d'expliquer au consommateur pourquoi il a intérêt d'acheter un produit qui est fabriqué en France, quel est le bénéfice pour lui. Et on s'est dit, il faut lui apporter cette preuve à travers un label. Et Origine France, en fait, a éclos à peu près à ce moment-là. Et on s'est dit, c'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut dire au consommateur, sans le tromper, que le produit qu'il achète, il est véritablement fait en France.
Et ça marche, effectivement, puisque aujourd'hui, les plans de chat...
Ça répond, en tous les cas, à une demande. Et on voit que, de plus en plus, les gens ont cette préoccupation de se demander qu'est-ce qu'ils achètent. Derrière ce produit, il y a quoi ? Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des savoir-faire, des entreprises, une contribution, finalement, à ma vie de tous les jours.
C'est Hainaut, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
La France bouge sur Europe avec Raphaël Duchemin et ses invités jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, c'est-à-dire maintenant, vous nous présentez la solution du jour. Et aujourd'hui, elle va aider ceux qui veulent investir dans l'immobilier.
Et ça y est, j'ai trouvé l'appartement de mes rêves, Elisabeth, et je cherche évidemment à décrocher le bon prêt immobilier. Forcément, je suis un peu stressée, il y a pas mal d'incertitudes. Je crois que vous avez une solution pour moi, ça s'appelle Préto.
Eh mais oui, parce que Préto a le pouvoir de simplifier le crédit immobilier et permet de le rendre plus transparent, le tout en quelques minutes. Vous pouvez obtenir un taux d'intérêt personnalisé grâce à des algorithmes qui s'appuient sur les dossiers déjà instruits auprès des banques. Dès la première simulation, Raphaël, sans que vous ayez besoin de dévoiler votre identité ni de donner vos coordonnées, Préto peut vous communiquer un taux d'intérêt sur mesure pour vous, un taux d'intérêt personnalisé. Bonjour Pierre Chapon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le cofondateur de Préto. Qu'avez-vous de différent? Parce qu'il en existe hein, des plateformes en ligne pour simuler des crédits immobiliers. Vous, qu'avez-vous de différent par rapport aux autres?
Vous l'avez très bien résumé. La différence principale, c'est que on offre aux utilisateurs une solution libre et gratuite qui permet d'aller vraiment dans le détail et d'avoir une proposition personnalisée un petit peu comme ce qu'on peut retrouver dans d'autres secteurs comme dans le voyage où on a, sans avoir à dévoiler quoi que ce soit, les prix des hôtels, des billets d'avion. On est habitué à ça maintenant en tant que consommateur. Ça n'existait pas dans le crédit immobilier.
Alors comment vous avez mis ça en place et comment d'abord ça vous est venu? Est-ce que vous étiez déjà dans l'immobilier?
Alors on n'était pas du tout dans l'immobilier. Mon associé et moi, on a été consommateurs tous les deux et on trouvait ça très frustrant de devoir un petit peu batailler pour avoir des réponses précises sur est-ce que tel montage est faisable ou pas et à quel prix, que ça soit au contact des banques ou des courtiers. C'était long et pénible.
Alors par exemple, si je dois simuler un taux, donc j'ai d'abord un questionnaire, je crois, lié à mon projet. Ouais. Quelles sont les étapes? Je crois que c'est très simple.
Tout à fait, ouais, c'est très simple. Que ça soit sur ordinateur ou sur mobile, ça marche très très bien sur mobile. Il y a un questionnaire qui prend quelques minutes, qui demande les informations clés pour pouvoir vous donner deux réponses. Déjà, est-ce que ce que vous demandez est possible en fonction de notre compréhension très fine de ce que savent faire chaque banque et à quel taux, de manière personnalisée et reflétant les vrais taux pratiqués sur le marché.
Et alors là, vous pouvez analyser des millions de combinaisons. Vous avez un algorithme magique qui peut en quelques minutes tout analyser.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas magique, hein, c'est de l'informatique. On a effectivement un outil qui simule tous les montages possibles en fonction des banques. Une base de données qui est mise à jour en temps réel sur les taux pratiqués par les banques.
Chaque et tout mois. Ça.
C'est un peu plus que chaque mois même, parce que c'est en fonction des concrétisations qu'on observe sur le marché. Donc c'est plus fréquent que ça. Et tout ça permet de donner cette réponse au client.
Thomas ?
On vient de parler de commerce équitable, là, sur la première partie de l'émission. Quand on choisit un prêt, on le fait que par rapport à l'argent, comme si on choisissait un produit que par rapport à son prix. Or, quand on choisit d'acheter quelque chose, on le choisit aussi par rapport à ce qu'il nous apporte de qualité, de plaisir, de sens, etc. Est-ce que vous pensez que dans le crédit immobilier, un jour, il y aura des critères pour permettre à des emprunteurs de choisir aussi leur prêteur au regard de d'où vient l'argent, de qui sont, quelles sont les démarches des banques qui le prêtent, etc. Est-ce qu'un jour, Préto pourrait aller plus loin
avoir
que
une
le
démarche
seul prix,
responsable,
par exemple?
Alors, en fait, donc en France, les prêts immobiliers sont fournis par des banques, donc des banques qui sont connues de tous. Nous, on fait l'intermédiaire entre les banques et les utilisateurs. Nous, notre vocation, c'est de présenter tous les critères de manière transparente. Donc, s'il y a des critères qui permettent à des banques de mettre en valeur un positionnement sur des dimensions nouvelles, sur leurs engagements ou sur ce genre de choses, nous, on aura vocation à les expliquer, en tout cas, de manière transparente. Pour l'instant, on n'a pas observé ce genre de dimension.
Elisabeth ?
Oui, alors une fois qu'on a sélectionné son offre de taux, vous centralisez tout ? Vous occupez jusqu'au notaire, vous vous occupez de tout ?
Tout à fait. En fait, après la simulation, pour les utilisateurs qui souhaitent pour le coup devenir lever l'anonymat et entrer en contact
et
avec nous, on confie à un expert qui est un salarié chez nous, un expert en crédit, qui va accompagner de A à Z l'utilisateur effectivement dans la négociation, dans l'optimisation du dossier, jusqu'à la signature chez le notaire.
Et vous payez comment, vous, puisque tout est gratuit?
Alors, tout est gratuit pour l'utilisateur. Nous, notre vocation, c'est d'apporter des nouveaux clients aux banques en faisant
d'affaires.
Le meilleur matching. Et donc, on est apporteur d'affaires pour les banques.
La solution s'appelle Préto. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui sur Europe 1. Merci à Thomas qui était notre coach. On se retrouve lundi. Et n'oubliez pas, le World Impact Summit, 23-25 mai, vous avez la possibilité de vous inscrire à un concours. Toutes les infos sont sur Europe 1.fr.